Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 16h à Ouagadougou, 19h à Tananarive. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Sommet du G5 Sahel en Mauritanie. L'Union européenne offre 800 millions d'euros et la France 500 millions au G5 Sahel pour les projets de développement axés sur la prévention du terrorisme. L'organisation anti-djihadiste regroupe en la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad tient une réunion en ce moment même au siège de son secrétariat à Nouakchott pour essayer de collecter aujourd'hui 1,9 milliard d'euros pour 49 projets prioritaires, en particulier dans les régions frontalières, où les djihadistes tirent parti des 40 États pour s'implanter. Les projets en question couvrent la période 2019-2021. Au Mali, le colonel Abdoulaye Makalou, secrétaire général de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, a démissionné de son poste. Il est accusé d'avoir séquestré et torturé le directeur de publication de Mali Média, Amindou El Hadj Touré, dans les locaux de la CVJR, ce que le colonel Makalou dément. Au Togo, l'opposition a décidé ce jeudi de maintenir les manifestations qu'elle compte organiser pendant une dizaine de jours entre le 8 et le 18 septembre pour exiger l'arrêt du processus électoral menant aux législatives du 20 décembre. Décision prise malgré l'interdiction des protestations en question par le ministre togolais de l'administration territoriale, Payadoua Boukpessi, pour cause de risques très élevés de troubles graves à l'ordre public. Le ministre n'a pas à interdire nos manifestations parce que le code électoral nous autorise en tant que parti politique légalement constitué à faire campagne, a déclaré sur une radio locale Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition d'opposition. A noter que les 14 partis de la coalition n'ont pas présenté de liste aux élections et compte boycotter les législatives du 20 décembre. Merci d'écouter VOA Afrique. Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara, qui a souvent critiqué le président Paul Kagame, a été acquittée ce jeudi par un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des chefs d'accusation qui lui ont valu d'être emprisonné pendant plus d'un an. Les charges retenues par l'accusation sont sans fondement, a déclaré le panel de trois juges, en soulignant que les 5 co-accusés de Mme Rwigara dans cette affaire, dont sa mère Adeline et sa sœur Anne, ont également été acquittés. Selon le tribunal, les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement, notamment lors de conférences de presse, ne constituent pas une incitation à l'insurrection, car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution du Rwanda et les lois internationales. Les juges ont également estimé que l'accusation n'avait pas prouvé que Mme Rwigara avait falsifié des signatures dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à l'élection présidentielle de 2017. Le rejet de sa candidature avait été critiqué par plusieurs gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Burundi, le gouvernement burundais exige la fermeture du bureau à Bujumbura du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, avec lequel il avait déjà suspendu toute collaboration depuis octobre 2016. Une note verbale qui demande la fermeture a été remise mercredi au coordinateur résident de l'ONU au Burundi, afin qu'il la transmette à Genève à la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé. Il avait été réélu en juillet de la même année. Et pour terminer, Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a inauguré ce jeudi à Dakar le musée des civilisations noires, un projet vieux d'une cinquantaine d'années destiné à célébrer les réalisations de l'homme noir des débuts de l'humanité à l'époque contemporaine. Le président Macky Sall, qui briguera un second mandat lors de la présidentielle en février, a ensuite effectué une courte visite au musée en compagnie de son homologue comorien Azali Assoumani, seul chef d'État étranger ayant fait le déplacement à Dakar.
Minute Écho avec Nanit Talani. la Côte d'Ivoire va construire la première centrale électrique solaire flottante d'Afrique et augmenter ainsi la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Les installations se feront sur des plans d'eau, lagunes ou mers qui sont abondants dans ce pays. Cette centrale sera financée à hauteur de 80 millions d'euros par un prêt de l'Agence française de développement avec qui le gouvernement ivoirien vient de signer une convention pour une coopération renforcée dans le domaine de l'énergie durable. Le coton africain, connu pour sa qualité et qui représente près de 10% de la production mondiale, fait face à une rude concurrence et manque de subventions publiques, d'après des experts mondiaux de l'or blanc réunis à Abidjan. Ce coton lutte également contre les fibres synthétiques qui ont envahi l'industrie textile en Afrique. Pourtant, l'or blanc africain dispose d'un fort potentiel, celui d'être une culture tropicale. En plus, il a le gros avantage d'être récolté à la main, ce qui préserve mieux les caractéristiques de la fibre. Pour terminer, en forte baisse ces derniers mois, le rand, la devise sud-africaine, s'est refait une santé ces dernières semaines et a aussi bénéficié de la récente détente survenue entre le front de la guerre commerciale qui se livrent les États-Unis et la Chine. En outre, les analystes anticipent en faveur de l'Afrique du Sud un taux de croissance de 1,8% pour 2018 alors qu'il était de 1,3% en 2017.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Ain't nobody but I die. I don't want life for nobody. I just want that sweet dream by me. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you worry.
Funny guy in a room, baby, you the one that I do that, yeah. Body like Coca-Cola.